Europe Weekend, Wendy Bouchard.
8h38, Anne Sinclair, on vous retrouve jusqu'à 9h avec votre invité. Bonjour Anne.
Bonjour Wendy. On va ce matin parler des migrants, des réfugiés qui bousculent les États européens depuis quelques années et encore plus depuis la guerre en Syrie. Il en a été question à Bruxelles ces deux derniers jours, mais aujourd'hui nous allons tenter de faire le point sur le sujet avec vous, Hélène Thiollet. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes chercheure en sciences politiques au CNRS, enseignante à Sciences Po, spécialiste des migrations et auteure d'un livre collectif qui s'appelle « Migration en Méditerranée » aux éditions du CNRS. Plus d'un million de réfugiés sont arrivés en Europe en 2015, le flux migratoire le plus élevé depuis la Seconde Guerre mondiale, et les opinions oscillent entre tentation xénophobe et angélisme. Alors d'abord, Hélène Thiollet, essayons de cerner le sujet. On parle indifféremment de migrants ou de réfugiés. Est-ce la même chose? Et est-ce que dans l'inconscient européen, il y aurait de mauvais migrants et de bons réfugiés?
Alors, les migrants et les réfugiés correspondent à deux catégories qui sont des catégories politiques. Quand on parle de réfugiés, on parle de personnes à qui on accorde un statut juridique spécifique parce qu'on a estimé qu'ils ont été victimes de persécutions soit individuelles, soit collectives dans leur pays d'origine. Quand on parle de migrants, on parle de quelque chose de beaucoup plus neutre. On parle juste de quelqu'un qui a passé plus d'un an dans un pays qui n'est pas le pays dont il a la nationalité. Donc en fait, sous le terme migrant, on peut mettre énormément de choses et de gens. Le terme migrant ne nous dit rien des causes pour lesquelles on quitte un pays, une région.
Aujourd'hui, la majorité qui arrive en France, est-ce que ce sont des réfugiés? La France a l'air de dire non et le HCR dit oui à 84%.
Mais là, justement, on touche à la nature politique de ce terme de réfugié. N'est réfugié que quelqu'un qui a été déclaré réfugié par soit un pays, soit par le Haut Commissariat aux réfugiés. Donc, les flux de personnes qui arrivent en France sont potentiellement des réfugiés, potentiellement des migrants économiques avec un statut, potentiellement de futurs clandestins ou migrants irréguliers. Mais au moment où elles arrivent, elles ne sont aucune de ces trois choses. Il faut attendre que leur statut soit déterminé.
Et le statut est déterminé dans les hotspots, d'une manière générale, à l'arrivée dans le pays où ils arrivent, dans le pays d'Europe. Et est-ce que c'est aussi facile qu'on nous le dit de faire la différence?
Justement, la détermination du statut est extrêmement complexe parce que les raisons pour lesquelles les gens quittent leur pays d'origine sont souvent multiples. On peut fuir une zone de guerre, mais avoir aussi des aspirations de type économique, c'est-à-dire vouloir gagner plus d'argent pour nourrir sa famille.
Alors, juste un mot sur l'ampleur des migrations au niveau mondial. On est ici, évidemment, focalisé sur l'Europe, mais l'essentiel des migrations se font ailleurs, c'est-à-dire, par exemple, au Pakistan, qui est le premier pays hôte, je crois. Et il faut bien voir que le Liban a le quart de sa population, c'est ça, aujourd'hui fait de réfugiés.
Absolument. On voit effectivement que le gros des réfugiés ou des exilés dans le monde, à 86%, est situé dans des pays pauvres, des pays très pauvres. L'Éthiopie, en termes de coût de l'asile, porte le poids, on va dire, de près de 500 réfugiés, 469 exactement, pour chaque dollar de PIB par tête. Donc on est très très loin, si vous voulez, en termes de proportion, on est très très loin quand on regarde à la fois le coût de l'accueil et le nombre de personnes accueillies par habitant. On est très très loin de, comme vous le disiez, du Liban, de la Jordanie, même de la Turquie. On est très loin de l'Éthiopie, du Pakistan, de l'Ouganda, du Congo, etc.
Encore juste quelques chiffres, hélas. Le nombre de morts, 4000, autour de 4000 en 2015, dont plus de 300 enfants morts en Méditerranée. 10 000 enfants disparus, dont on ne sait pas s'ils sont victimes de traite ou on ne sait trop quoi. Ce sont des chiffres considérables.
Alors, ce sont des chiffres considérables et surtout, ce sont des chiffres qui, l'an passé, au tournant de l'été 2015, ont un peu transformé justement les perceptions européennes vis-à-vis de l'arrivée des demandeurs d'asile et des migrants.
Il y a eu l'émotion avec le petit Thaïlande, bien sûr.
Absolument. Et ça, il y a eu vraiment un virage, on va dire, en termes d'opinion publique. Ce qu'il faut voir, c'est que ces morts dramatiques qui ont été comptabilisées l'an dernier, qui étaient déjà comptabilisées l'année d'avant, avant 2014, avec 3500 morts aussi, sont en fait le produit d'une tendance qui a commencé au début des années 90. Et cette mortalité en augmentation, dont on a vu l'explosion ces deux dernières années, elle est vraiment le produit du durcissement des politiques européennes contre l'immigration en général, donc non seulement contre toute forme de flux migratoire, y compris des flux qui incluraient des personnes en situation d'asile ou d'exil.
Alors, venons-en à ce que aujourd'hui l'Europe dit et propose. La répartition a été fixée sur l'accueil de 160 000 réfugiés, dont 30 000 pour la France, c'est ça ?
Pour l'instant, on est encore dans un flou, mais ce qu'on observe, c'est que le nombre des réinstallations de gens qui ont été enregistrés ailleurs en Europe vers la France est extrêmement faible.
C'est là qu'on en vient à la perception et à la fois à l'émotion suite aux morts des enfants et au petit Aylan, et puis les réactions face à une Allemagne qui a reçu 1 million de réfugiés. Donc, qu'est-ce qui s'est passé qui fait qu'il y a eu cet afflux ?
Angela Merkel a fait en 2015 ce que d'autres gouvernements allemands avaient fait au moment de la réunification allemande ou au moment de la crise yougoslave ou après en 99 au moment de la crise kosovare. Elle a effectivement créé un dispositif dans lequel l'État allemand permettait d'accueillir un très grand nombre de réfugiés. Donc c'est quelque chose dont l'Allemagne a l'habitude d'accueillir des chiffres millionnaires, on va dire. Mmh. Et ça correspond aussi à un besoin, de l'économie allemande,
qui a
été manifesté très clairement par les entreprises allemandes. Donc il faut être assez pragmatique et ne pas forcément voir qu'il y a eu là une démarche exclusivement éthique ou
bien sûr. Mais on s'aperçoit quand même qu'il y a deux types de réactions en Europe. Il y a celle de Madame Merkel. Manuel Valls, il y a quelques jours à Munich, a été beaucoup plus ferme en disant qu'il était hors de question d'en accueillir plus que les 30 000. Donc comment est-ce qu'on comble le gap entre l'afflux qui se presse aux frontières de l'Europe et le fait d'une politique relativement restrictive?
L'Europe a toujours considère depuis une vingtaine d'années qu'elle va demander aux pays de la rive sud de la Méditerranée, au Maghreb, puis de plus en plus profondément en Afrique, aux pays d'Afrique subsaharienne, y compris jusqu'au Soudan et en Érythrée, elle va demander à la Turquie de gérer les afflux potentiels de demandeurs d'asile et de migrants, quelles que soient les catégories auxquelles ils appartiennent. Donc la stratégie qui a été choisie par l'Europe, c'est vraiment cette stratégie d'externalisation des frontières, donc de payer littéralement pour que d'autres pays aux frontières de l'Europe s'occupent d'avoir une politique de containment, donc de retenue des migrations.
Mais ça marche, ça ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu à l'automne dernier un énième sommet, le fameux sommet de La Valette, où les représentants de l'Union européenne ont rencontré les représentants des gouvernements africains, ont relancé un dispositif à nouveau d'accord de partenariat pour demander au Mali, etc., de retenir les migrants sur la route migratoire ou sur la route de l'exil, alors que quelques semaines auparavant avait été publié par la Commission européenne un rapport qui établissait très clairement le peu d'efficacité de ce genre de dispositif. Mais on voit à quel point les négociations avec la Turquie, par exemple aujourd'hui, pour que la Turquie garde à tout prix ses 2 millions de réfugiés syriens, sont un point de focalisation très fort politique.
Alors Hélène Thiollet, on va faire une pause et on va continuer à parler bien sûr de ce problème des migrations qui est au cœur des soucis des Européens ces derniers jours notamment. A tout de suite.
A tout de suite Anne Sinclair avec Hélène Thiollet, votre invitée jusqu'à 9h sur Europe 1. Petite pause de 3 minutes et nous revenons.
Europe Weekend. Wendy Bouchard.
Et Anne Sinclair, de retour avec votre invitée jusqu'à 9h sur Europe 1, 8h50, Anne.
Je suis en compagnie d'Hélène Thiollet, qui est enseignante à Sciences Po, chercheuse au CNRS et qui est spécialiste des migrations. Et on en parle depuis tout à l'heure pour essayer de voir les différentes politiques des États. L'idée qui sous-tend tout ça, c'est que nos sociétés sont fragiles. Elles sont fragiles face à l'extrême droite et fragiles face à des populations qui sont déboussolées. Alors, qu'est-ce qu'on répond aux populations ? On ne peut pas leur répondre simplement « il y a pire ailleurs, il y a pire au Pakistan, il y a pire au Liban, vous êtes 500 millions d'Européens, vous pourriez bien accueillir quelques centaines de milliers ». Est-ce que ce discours qui est peut-être de façon comptable juste, peut passer ?
Les arguments, on va dire, les plus rationnels à confronter avec cette peur de l'autre, en fait. On peut lui opposer un peu deux arguments qui sont en général avancés par les scientifiques. Le besoin, on va dire, démographique de dynamisme de la population européenne, qui est une population très vieillissante, et un besoin économique d'immigration pour assurer les emplois d'aujourd'hui et les emplois de demain. Et ça, il y a un très grand nombre d'études économiques qui ont montré que malgré ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire des chiffres du chômage très élevés dans certains pays, on a besoin de travailleurs immigrants pour venir dynamiser les marchés du travail, pour venir prendre les emplois que les nationaux ne veulent pas prendre ou ne peuvent pas prendre.
Mais ça, c'est dans un contexte paisible, si j'ose dire.
Absolument.
Là, on est dans un contexte de crise. Et si on dit aux habitants de Calais, vous voyez, c'est pour assurer les emplois peut-être de demain, c'est pas un discours qu'ils peuvent entendre.
Calais est, à mon sens, un point de fixation, on va dire, symbolique. Du rapport de l'opinion publique avec cette question de la migration et de l'asile. Calais, c'est une vieille histoire, hein, ça a commencé dans les années 90 et ça s'est matérialisé en 99 avec le camp de Sangatte, qui a été ensuite démantelé par Nicolas Sarkozy quand il était ministre de l'Intérieur en 2002. Donc c'est une vieille histoire des tâtonnements de la gestion de cette question de l'asile et de la migration pour, en fait, un tout petit nombre de personnes. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. C'est-à-dire
que c'est 800 personnes.
C'est 800 personnes, c'est quelques milliers. Alors après, il y a beaucoup de, comme on dit, de turnover, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup
bien
de
sûr
rotation. Mais néanmoins, on parle de tout petits effectifs par rapport aux chiffres que vous mentionnez en Allemagne, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Serbie, par rapport à la Grèce, par rapport à l'Italie. Alors, loin de moi l'idée de vouloir donner des leçons à qui que ce soit, mais ce manque d'anticipation et ce manque de rationalité dans la gestion d'un problème qui est petit dans les années 90, et qu'on va rendre vraiment, qu'on va enquister dans des enjeux idéologiques.
Alors comment explique-t-on justement que l'Europe est à ce point improvisée et se soit trouvée dépassée, puisque c'est un problème qui se pose depuis plus de 20 ans ?
Absolument. Et ben, pour rester sur l'exemple de Calais, on fait un camp en 99 et puis on démantèle le camp en 2002. Mais l'idée c'est que en créant un camp ou en démantelant un camp, on ne résout pas un problème. Et si on veut s'occuper d'une population, notamment une population qui est petite numériquement, de réfugiés et de demandeurs d'asile, on a intérêt à s'en occuper rapidement et à très très vite les intégrer dans des dispositifs classiques de l'aide sociale, dans le marché du travail, en donnant les moyens, par exemple, d'apprendre la langue française, de se former et de très très vite se disperser au sein d'une société et de devenir très vite des membres productifs de cette société. Moi, je suis assez persuadée que une gestion de la part des pouvoirs publics plus apaisée, plus rationnelle, qui mêle les enjeux sociaux, économiques et idéologiques, bien sûr, ou éthiques, est, à mon avis, une bonne solution. Et d'éviter, pour éviter les abcès de fixation.
Alors, certains économistes britanniques, je pense à Paul Collier, que vous devez connaître, disent que l'immigration en soi n'est ni bonne ni mauvaise, mais que tout dépend évidemment du taux, tout dépend du type d'immigration. Est-ce que ça veut dire que dans un monde idéal, il y a un taux maximum, un plafond d'immigration qu'un pays peut ou ne peut pas supporter, une sorte d'immigration choisie, où on essaierait de dire, voilà, les médecins syriens, oui, mais le travailleur non qualifié malien, non?
Moi, je ne crois pas à cette question du seuil d'acceptabilité des populations vis-à-vis de l'immigration, parce que je pense que la capacité d'accueil est très élastique et le rapport à la diversité est très élastique. Le contexte de la crise économique est un contexte qui, évidemment, tend les relations sociales, de toutes les formes de relations sociales, qui les rend plus brutales. Et donc, de fait, c'est un mauvais contexte pour accepter de la différence, pour accepter les étrangers. Mais c'est un effet de contexte. Après, on voit qu'il y a quand même énormément de pays dans le monde qui ont accepté des taux d'immigration ou des, on va dire, des taux d'étrangers dans leur population et qui s'en portent pas trop mal. Je pense au Canada, je pense aux États-Unis. Ce sont des pays qui se sont construits avec un rapport à l'immigration.
C'est vrai que ce sont des pays neufs qui se sont créés comme ça. Nous sommes en Europe des sociétés anciennes et donc c'est là que le choc des populations diversifiées se fait.
Mais on surestime le côté calcifié des sociétés européennes. Si on regarde la France est un pays d'immigration et c'est aussi un pays d'émigration. L'Allemagne est aussi un grand pays d'immigration, malgré toutes les politiques des années 70 qui faisaient passer les immigrants, notamment turcs, italiens, puis turcs, pour des travailleurs temporaires qui allaient rentrer chez eux. Bon, finalement, ils sont restés et ils constituent la nation allemande à proprement parler. Donc je pense qu'on sous-estime la dimension cosmopolite et internationale de l'Europe elle-même et sa capacité phénoménale d'intégration, l'intégration de fait des populations qui vont s'installer, avoir des enfants, avoir un travail, contribuer à la richesse nationale et contribuer à l'identité de l'Europe, qui n'est pas en péril. Donc il n'y a pas vraiment de crainte de choc des cultures, de submersion d'une identité européenne qui serait d'une certaine couleur ou d'une certaine forme et qui serait attaquée par d'autres cultures.
Hélène Thiollet, deux questions rapides. Qu'en est-il des accords de Dublin ? Seront-ils remis en question ? Et qu'en est-il de Schengen ?
La période qu'on vit aujourd'hui, elle met en tension ces deux régimes. Dublin, c'est deux choses, c'est essayer d'avoir les mêmes critères, d'harmoniser les critères d'asile. Bon, ça, c'est un petit peu un échec. Et la deuxième chose, c'est de dire que le premier endroit où un demandeur d'asile arrive physiquement est l'endroit dans lequel sa demande d'asile doit être examinée et donc dans lequel il doit rester. Et ça, c'est complètement contradictoire avec le principe de libre circulation à l'intérieur de l'espace européen qui est symbolisé par l'espace Schengen. Donc, en fait, il y a vraiment une tension avec l'idée que l'asile assigne des demandeurs d'asile à résidence dans un premier pays où ils sont arrivés, tandis que Schengen est un lieu de circulation en fonction des opportunités économiques, familiales, de tout un tas de raisons pour lesquelles les gens auraient envie de bouger à l'intérieur de l'Europe.
Schengen à condition que Schengen demeure.
Absolument.
Et là, on est dans une vraie discussion et des vrais enjeux sur la pérennité de Schengen. Vous êtes inquiète là-dessus ?
Non, je suis pas vraiment inquiète sur la pérennité de Schengen, mais ce que nous montre la réunion qui a lieu au Conseil européen, qui a mis à l'agenda deux questions, la question du Brexit, donc l'exit éventuel de la Grande-Bretagne du système européen. La Grande-Bretagne ne fait pas partie de Schengen, des migrations. Et on voit bien là, en fait, quelque chose qui est symptomatique de cette crise migratoire entre guillemets, c'est-à-dire que le problème n'est pas en soi, à mon avis, la migration ou l'asile, ou l'exode de populations syriennes ou afghanes. Le problème, ce sont les dynamiques de la construction européenne et ces dynamiques de cavaliers seuls qu'on observe aujourd'hui en Grande-Bretagne, ces tentations de sortie qui animent un petit peu tous les pays de l'Union européenne. Et la migration n'est qu'un prétexte pour manifester en fait, ces crises de souveraineté à l'intérieur de l'Union européenne.
La crise de l'Europe est plus importante que la crise des migrants et elle la nourrit, si je veux.
Absolument, j'irais même jusqu'à dire qu'il n'y a pas vraiment de crise migratoire. L'Europe est tout à fait capable d'accueillir les demandeurs d'asile qui se prêtent à ses portes et d'en bénéficier même. Mais il y a une question politique qui se pose, qui est celle de l'avenir de la construction européenne.
Hélène Thiollet, merci beaucoup d'être venue nous donner des éléments d'éclairage de ces discussions qui ont lieu à l'échelle européenne et de ce drame des migrants aujourd'hui en Europe. Je rappelle un livre auquel vous avez participé, livre collectif qui s'appelle Migration en Méditerranée, édité par les éditions du CNRS. Merci beaucoup d'être venue ce matin.
Merci de votre invitation.
Merci Anne Sinclair. On ne vous retrouve pas la semaine prochaine. Nous serons en direct du Salon de l'Agriculture à partir de 8h30, mais dans 15 jours pour votre grand entretien.